ils se sont confiés à nous durant la saison 1 du podcast. Tout l'été, ils vont nous envoyer des cartes postales de leur vie aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce que le podcast a changé pour eux? En résumé, alors, ça s'est bien passé? Bonjour Béatrice.
Bonjour Sarah.
Alors, quand on a enregistré ton épisode, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, tu nous racontais que tu étais conseillère du ministre de la Culture, que tu avais découvert que tu étais atteinte d'un cancer et que tu l'avais géré. Alors, il y a pas de bonne façon de le gérer ou de mauvaise façon de le gérer, mais que tu l'avais géré à la hussarde en calant tes traitements entre le Festival des Francofolies, monter les marches à Cannes et que tu avais un peu essayé de discipliner ce cancer et cette cure pour la faire rentrer dans tes contraintes à toi et ton agenda. Est-ce que c'est assez fidèle?
Oui, c'était un peu ça. C'était un numéro de cascadeuse, absolument. C'était comment il m'arrive quelque chose qui en général ne prévient pas avant d'arriver, mais qui arrive cependant à beaucoup de personnes, hein, dans un environnement professionnel qui est en soi extraordinaire. Et moi, je voulais préserver l'extraordinaire. Donc, j'ai tout fait pour. Voilà. Et c'était ça qui rendait un petit peu fou l'aventure. Ou folle plutôt l'aventure.
Est-ce que tu as eu des retours après l'enregistrement?
Oui, quand le podcast a été diffusé, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages de différents horizons, des personnes qui avaient été touchées par la maladie en soi, en fait, et ma façon de la gérer à ce moment-là. Des personnes de mon entourage qui savaient que j'avais vécu cette maladie, mais qui n'étaient pas rentrées dans les coulisses de la manière dont je l'avais rentrée, qui étaient assez surpris. Et puis des personnes de ma vie de l'époque où je te l'ai raconté, parce qu'à l'époque, qui plus est, j'étais élue locale en province, et des personnes qui ont découvert donc quelque chose qui m'était arrivé que je n'avais pas raconté. Donc oui, j'ai eu beaucoup de messages, évidemment tous extrêmement chaleureux et bienveillants. Ouais.
Donc en fait, tu réponds un peu par avance à ma question, tu n'as jamais regretté d'avoir répondu à mes questions?
Quand je suis sortie de chez toi, si.
Ah bon?
Parce que en fait, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai raconté? Pourquoi j'ai raconté ça? Parce que c'est quand même quelque chose, c'est assez curieux. À la fois, je dis toujours, j'ai pas de tabou et je peux en parler sans problème. Je suis la première à militer pour le droit à l'oubli et pour des choses comme ça. Mais en fait, se raconter et raconter ça, c'est quelque chose d'un peu, comment dire, c'est un petit peu se déshabiller, quoi, en fait. Hein. Et en sortant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, après, pas du tout, jamais. Jamais, en fait. Et puis surtout pas au moment où il a été diffusé, quoi. Mais sur le moment, tu vois, cette espèce de chose un peu a posteriori, comme ça.
Comment tu vas aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais très, très bien. Je te remercie.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui a changé dans ta vie? On t'a quitté élu local, très impliqué dans plein de sujets autour de la culture, du numérique et de ta ville, et en rémission. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années?
Ah. Eh bien, alors à la fois, je ne suis plus élue puisque les mandats se sont terminés et puis j'avais décidé pour l'un d'entre eux de ne pas y retourner et puis les circonstances ont fait que je ne me suis pas représentée pour le second mandat que j'avais également et les circonstances, je vais y revenir. Notre petit échange était juste avant le confinement, un petit peu avant le Covid. Enfin, voilà, il y a eu cette période qui a chamboulé la vie de pas mal de personnes. Et moi, en effet, j'étais assez en distance par rapport à ce que je te racontais, parce que ça faisait pas mal d'années que je l'avais vécu, donc je me sentais légère par rapport à la chose. Et la vie s'est ri de moi une seconde fois, comme tu aimes à le dire. Les blagues de la vie font que voilà, j'étais pas totalement en rémission et j'ai fait une récidive du cancer. À l'issue du premier, enfin, on me l'a diagnostiqué à l'issue du premier confinement, parce que, comme tout le monde, ou comme beaucoup, je n'étais pas allée faire mon contrôle pendant le confinement, et voilà. Alors, je dirais à cela qu'il faut toujours le faire, mais ça n'a pas empêché, en fait, c'est pas ça qui a produit, hein, mais en effet.
Ça aurait changé quelque chose si tu avais fait ce dépistage plus tôt?
Bah, il aurait peut-être été un peu moins avancé dans le stade dans lequel il était, mais en fait, au fond, non, il était là. Il était là.
On peut dire de quel cancer il s'agit?
Oui, il s'agit du cancer du sein, le cancer que beaucoup de femmes ont, une femme sur sept aujourd'hui. C'est un cancer hyper, hyper commun, sauf que cette récidive, elle était plus... C'était la même attaque que la première, en fait, hein, mais cette récidive-là, elle était plus agressive et plus violente que la première fois. Et donc, ce qui s'en est suivi a été plus, on va dire, hardcore que la première fois. Mais avec, évidemment, tout ce qui se passe dans ta tête quand on te l'annonce, c'est pas très joyeux. Mais en effet, tu te dis, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner.
T'as sincèrement envisagé de baisser les bras et de pas te soumettre au traitement?
Ah ouais. Oui, oui. C'est-à-dire que je suis allée voir le chirurgien. Et le chirurgien, lui, jamais j'allais me soustraire au fait qu'il m'opère, hein, mais il m'a annoncé tout le flot de nouvelles pas très enthousiasmantes. Et puis forcément, y a la chirurgie, puis il y a la suite, hein, dans un traitement de cancer, donc on l'évoque immédiatement, vu que je l'avais déjà vécu et que je savais un petit peu par où j'allais passer. Et là, d'emblée, je lui ai dit, mais moi, je veux pas y retourner. Et je veux pas y retourner parce que au fond, j'ai pas du tout aimé la manière dont ça s'est passé la première fois. Et pour cause, puisque je menais une vie de warrior à l'époque, hein, et de combat. Et il m'a dit, mais vous savez, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, et on sait écouter les patients maintenant. Donc voilà. Mais ils s'y sont mis à plusieurs reprises pour que je puisse retourner. Ils m'ont pris un petit peu en tenaille pour que j'y aille. Hein. Je faisais ma mauvaise tête, en fait.
J'ai une question un peu cash, mais c'était une forme de suicide de décider de pas y aller.
Je sais pas sur quel bouton. En fait, c'est une très bonne question. Je l'ai pas craqué celle-là. Je sais pas. C'est toujours ce qu'il y a de compliqué dans cette maladie. Elle est pas sympa parce que en fait elle t'échappe en fait. Tu vois, c'est quelque chose, comme beaucoup de maladies d'ailleurs, hein, souvent, hein, tu vois, ça t'échappe et c'est plus toi qui es le pilote du bateau, c'est-à-dire que tu vas te remettre dans les mains d'un corps médical qui par ailleurs est extraordinaire, mais ça t'échappe. Et j'ai le sentiment que le fait de pouvoir dire non, c'était une façon plutôt de dire non à la maladie que de dire non au traitement, parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que j'y serais allée quand même, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont réussi à faire ça très bien. Hein, mais je pense que sur le moment, le non, tu sais, c'est un peu sur la période non des enfants, tu vois. C'était comment moi, je reprends le contrôle de quelque chose.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'autour de toi, les gens ont réagi différemment, sachant surtout qu'ils avaient sûrement écouté ta première histoire et ce que tu avais raconté sur la façon de t'accompagner ou pas?
Alors autour de moi, on était en confinement, hein, je rappelle, hein, et en plus je suis rentrée à l'hôpital pour mon intervention. Enfin, je suis sortie chez le chirurgien et le soir même, je suis allée dîner au restaurant avec des amis. Et je veux dire que j'ai bien dîné, bien mangé, bien bu, mais le soir même, les restaurants fermaient à nouveau, en fait. Hein, donc après, on se retrouvait tous à nouveau dans des bulles, et donc dans des bulles d'isolement. Donc c'est vrai que la bulle d'isolement, elle était de fait plus confortable pour moi, parce que je me disais que mener ce combat pendant que toute la France était elle-même isolée, ça allait faire en sorte, ça allait faire que moi, je n'étais pas isolée. Tu vois, c'est assez curieux comme façon de penser que moi, j'allais rien rater et que je n'allais pas me sentir isolée d'être malade.
Ouais, donc t'allais pas être exclue, quoi.
Voilà. Donc moi, je l'ai abordé de manière extrêmement, en me disant, finalement, c'est presque une chance de le vivre pendant cette période-là. Voilà. Et ensuite, moi, alors, donc du coup, ça s'est pas non plus propagé partout, la nouvelle, mais moi, j'ai mis en place les mécanismes. C'est-à-dire que j'ai mis une boucle WhatsApp en place avec tous les copains en disant, bon, les amis, à la guerre comme à la guerre, on repart à la guerre, quoi. Hein, voilà. Et donc, j'ai mis en place tout le dispositif amical autour de moi immédiatement, parce que je savais que c'était important. Ouais.
Et t'as des amis très solides.
Ah, super. Ouais, super précieux, super premier rang, deuxième rang, on va dire. Voilà, chacun en prend sa part, chacun est là ou pour en backup d'une visite de médecin ou de quelque chose pas sympa, les blagues drôles, les playlists sur Spotify pour se sentir bien à la veille d'un moment. Voilà, chacun a pris sa place et chacun était vraiment présent, hyper présent. Et ça dure plusieurs mois et donc ils ont vraiment été là. Oui, oui.
Alors, j'ai une question, je trahis pas de secret en disant ça. Ton ancien patron, c'était Frédéric Mitterrand.
Absolument, c'est lui le ministre de la Culture, ouais. Absolument.
On sait que Frédéric Mitterrand est malade d'un cancer, il l'a communiqué dessus. Vous avez eu un appel, vous vous êtes parlé, vous vous êtes touché les antennes sur ce sujet?
Non, parce que c'est un peu de la pudeur réciproque, en fait. Parce que je voudrais pas trahir l'histoire, mais... sur cette histoire de cancer, lui et moi, on a c'est juste que pour le coup, je veux pas trop trahir parce qu'il a une histoire personnelle. Il s'est passé des choses à ce moment-là le concernant aussi. Je pense qu'en fait, il a le combat qu'il a mené là et il est pas arrivé comme ça non plus.
D'accord.
Et voilà. Donc il y a eu, on a un chassé-croisé de longue date. Voilà. Mais on se
C'est une histoire sans parole entre vous sur
c'est
ce
ça.
Sujet, quoi.
C'est un destin. un destin en parallèle, j'ai envie de te dire, mais qui est assez lié en même temps. C'est assez romanesque et cruel à la fois.
Ouais. Je voudrais aborder un autre sujet qui est un peu plus superficiel. T'as toujours été une très belle femme, mais là en ce moment, j'ai l'impression que t'as jamais été aussi belle, aussi sexy, aussi mutine, je sais pas comment dire ça. De toute façon, moi j'ai pas de problème, au contraire, j'adore admirer les femmes, mais je veux dire, j'ai pas de problème à dire ce truc un peu impudique. J'arrive pas à comprendre le lien, mais je sens qu'il y a un lien avec ce qui t'est arrivé récemment.
Oui, il y en a un, parce que le premier, c'est que c'est la renaissance, en fait. Hein, c'est comment tu te reconstruis après et comment tu te refais une santé au sens littéral du terme, premièrement. Deuxièmement, en rigolant souvent, je dis on m'a tout refait, donc j'en profite, en fait. Hein, tu vois, c'est à un moment donné, on te demande quand même est-ce qu'on vous prend un peu de gras là pour le mettre là, ou est-ce que, je travaille à pas de secret, mais il y a des choses rigolotes quand même dans la reconstruction, même si c'est pas toujours confortable.
Tu veux dire qu'on t'a fait une petite liposuction pour les mettre dans les nénés.
C'est-à-dire que quand on me prend un petit peu de ton ventre pour te refaire un néné, ou quand on te reprend un peu sur la taille pour te, tu te dis tu choisis les endroits où on va le prendre, hein, déjà, donc tu te dis après tout on va joindre l'utile à l'agréable et on va le faire bien, en fait, hein. Donc ça c'est la première chose, mais de manière plus sérieuse, je me suis aussi beaucoup reprise en main, je me suis dit esprit sain dans un corps sain,
ouais.
Et en fait j'ai pareil, je me suis dit ok, qu'est-ce que t'as pas bien fait la première fois, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses bien cette fois-ci, à partir de qu'est-ce que tu dois ne plus faire, et donc
qu'est-ce que t'as changé,
nouvelle philosophie de vie, le sport, la nourriture, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on doit faire, en fait, hein, et qu'on ne fait jamais, en fait, ce sont toujours les bonnes résolutions du 1er janvier, et en l'occurrence je les ai adoptées, et c'est plutôt bien, c'est confort, t'as la patate, et puis je crois que j'ai la gourmandise de la vie, en fait, et je crois que ça rend beau. Ouais, j'ai envie de dire ça, je pense que ça se renvoie dans les yeux, c'est ça.
Merci.